l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Luchon, 94 FM.
Et c'est toujours avec une chaleur accablante que nous vous retrouvons pour ce Présence Midi. N'oubliez pas, si vous voyez quelqu'un qui est en difficulté, n'hésitez pas à appeler le 15 pour lui porter un aide. Et puis n'oubliez pas non plus de boire, même si vous n'avez pas la sensation de soif, que vous êtes un petit peu âgé, il faut absolument vous hydrater. Quelques conseils et puis restez au frais bien sûr si vous le pouvez. Alors ce Présence Midi en ce mercredi, eh bien le Gers sera à l'honneur, puisque dans quelques instants, Anne-Rose Jankovic sera avec Monseigneur Lacombe, l'archevêque du diocèse d'Auch. Il viendra donc nous parler bien sûr de l'été qui arrive, de la saison estivale dans son diocèse. Et puis on restera toujours dans le Gers avec Pauline Cazier. On parlera d'histoire et surtout du souvenir. Le souvenir français sera à l'honneur dans l'interview et l'invité donc de Pauline Cazier. Et puis on parlera aujourd'hui dans Un jour, un livre, un auteur, d'un recueil de nouvelles. C'est assez rare qu'on fasse ce genre d'opération sur Un jour, un livre, un auteur, un recueil de nouvelles avec au maximum 2 pages par nouvelle. Voilà, on peut lire ça un petit peu partout, dans une salle d'attente, même si vous êtes au supermarché, qu'il y a du monde aux caisses, eh bien vous pouvez lire une nouvelle assez facilement et vous verrez que ces nouvelles sont assez captivantes. Voilà rapidement donc le sommaire de ce magazine. Eh bien nous, on part tout de suite pour le Gers avec Anne-Rose Jankovic qui est avec Monseigneur Lacombe, l'archevêque du diocèse d'Auch.
Radio Présence à Millau, 106.5.
Bonjour Monseigneur Bertrand Lacombe.
Bonjour Anne-Rose.
Merci de nous retrouver pour nous donner des nouvelles de votre diocèse, vous qui êtes archevêque d'Auch. Alors c'est la fin de l'année pastorale. Vous allez, pour commencer, nous donner quelques informations sur les temps forts justement qui ont marqué cette fin d'année pastorale. Je crois qu'il y a eu plusieurs rendez-vous importants.
Oui, il y a eu plusieurs choses heureuses. Je pense d'abord au concours photo. Au concours photo qui est fait par l'équipe Terre d'Espérance et qui voilà voit chaque année de plus en plus de personnes qui envoient leurs photos. Donc là, le premier prix a été attribué à 2 regards paisibles de moutons très très sympathiques qui se nourrissent. Mais il y a aussi des prix avec des animaux, notamment des oiseaux. Il y en a un sur la course landaise, il y en a un sur le pèlerinage des vocations. Il y a aussi un très beau, très belle image sur l'architecture des toiles d'araignée, très, très beau, quand l'architecture se fond dans la nature. Il y a aussi du végétal, des fleurs, ou alors aussi des images de vitraux. Soit le vitraux eux-mêmes, soit la lumière qui se projette sur les murs, en l'occurrence, je crois, de la cathédrale. Voilà, donc je suis heureux de commencer par cet événement qui est vraiment un événement heureux parce que ça a du succès et puis ça permet de mettre en avant de belles choses. Le titre de ce concours photo, c'est « Du cliché à la contemplation ». Et je crois que les images qui ont été choisies sont vraiment des clichés qui vont vers la contemplation, qui permettent de contempler le Créateur. Manière de rentrer dans l'action de grâce, de voir les belles choses que le Seigneur nous donne. Mais Bon, évidemment, il y a aussi d'autres choses en cette fin d'année. Il y a eu la journée des ministres ordonnés aînés, qui, le 1er juin, nous a amené à avoir un temps à propos des chutes. La chute est quelque chose qui peut arriver avec le grand âge, et donc nous avons fait venir quelqu'un qui était spécialisé dans cette question-là et qui nous a aidé à voir comment se relever. Mais ça a été aussi une journée fraternelle. Nous avons eu le conseil du presbytérium qui nous a fait traiter d'un certain nombre de questions, d'actualité, de partage de vie. Et puis aussi, nous avons marqué les 10 ans d'Amoris Laetitia. Donc, nous avons réfléchi sur tout ce qui a trait à l'accompagnement du mariage. Et puis, ça a été aussi l'Assemblée générale de l'Association diocésaine. Et puis, un événement qui m'a marqué plus particulièrement, mais auquel le diocèse s'est beaucoup associé, ça a été le 12 juin dernier pour la solennité du Sacré-Cœur, la messe de jubilé que nous avons eue à la cathédrale. Et nous avons besoin de ces moments parce qu'on a aussi les réunions, beaucoup de réunions, de bilans, de projets. Et heureusement que nous avons ces événements heureux pour nous donner de passer vers l'été qui commence tout juste.
Alors, je marque une pause sur votre jubilé. Quand vous regardez les 10 années d'épiscopat que vous venez de vivre, qu'est-ce qui vous touche le plus? Qu'est-ce que vous retenez fondamentalement? Qu'est-ce que vous avez appris peut-être de ces années?
C'est une continuité. C'est une continuité parce que bien sûr c'est 10 ans d'épiscopat, mais c'est 25 ans de presbytérat aussi que je célèbre en ce mercredi 24 juin. Et donc c'est la grâce d'être au service de la mission et de manière diverse. On se dit parfois, quand on s'engage dans une vocation, on fait toujours la même chose, mais non, on est dans une vocation et l'Église nous donne vraiment une diversité. Et cette fête du Sacré-Cœur était vraiment bienvenue. C'est le hasard, mais plutôt la providence qui a fait que 10 ans jour pour jour, c'était le 12 juin 2016 à Bordeaux. Et c'est vraiment la manière dont l'amour du cœur de Jésus vient pour chacun de nous, se répand autour de nous, et ben, nous essayons de prendre notre petite place, d'être dans ce maillon pour recevoir cet amour et pour en témoigner autour de nous. Peut-être ce qui marque particulièrement, c'est ce changement. Ces changements, j'ai cité au cours de l'homélie une lettre de confirmant qui m'avait marqué, d'un jeune qui disait « Merci papa et maman de m'avoir laissé faire ma confirmation, je vous aime ». Et c'est très beau parce que ça montre que ce jeune venait d'une famille qui n'était pas chrétienne, comme on en a beaucoup, mais les parents ont été ouverts. Ce jeune, comme beaucoup de jeunes, beaucoup de catéchumènes aujourd'hui, se disent « Mais comment vivre sans Dieu aujourd'hui ?» Ouais. Et donc, voilà, ils font une démarche libre. Et quand c'est un jeune collégien, ça a beaucoup de poids, enfin comme pour chacun d'ailleurs, mais ça, c'est un poids particulier. Et puis, les familles, parfois, sont les premières surprises de se dire mon fils, ma fille, mon enfant, mon frère, ma sœur, a découvert la foi. Et donc, c'est vrai qu'on n'accompagne pas tout à fait de la même manière. Donc, c'est cette invitation pour nous à un renouvellement, où il ne s'agit pas de reproduire ce que nous avons reçu, mais d'accueillir la grâce qui vient vers nous.
Merci beaucoup pour ces mots, Monseigneur. Alors, on va continuer. Vous avez évoqué les rendez-vous qui ont marqué la fin de l'année pastorale. Alors, ce n'est pas terminé tout à fait, hein, puisqu'en ce moment, vous êtes en session à Aix-en-Provence, une session pour les prêtres de votre diocèse. Voilà aussi une bonne occasion de bien rentrer dans l'été. Alors, des vacances, je ne sais pas si vous en prenez beaucoup, Monseigneur Lacombe, mais en tous les cas, vous allez partir en camp VTT avec les jeunes de votre diocèse. C'est peut-être pas tout à fait des vacances, mais c'est quand même un rythme, on imagine, bien différent.
Eh oui. Alors, si, je prends 3 semaines de vacances et j'encourage tous les prêtres à prendre 3 semaines de vacances en continu. Nous avons cette année un certain nombre de prêtres Fidei Donum amis. Il y en a un certain nombre qui sont rentrés chez eux ces dernières années, qui nous font l'amitié de venir cet été. Donc, il y a possibilité de remplacement. Et donc, vraiment, c'est indispensable de prendre ce temps de pause en continu. Mais cela n'empêche pas de faire les camps, là, comme le PLVTT du 6 6 au 11 juillet, donc tout début juillet. Et voilà, c'est un beau rendez-vous. Enfin, une occasion où l'on peut faire du sport, où on goûte de la bonne cuisine gersoise, mais raisonnablement. Et puis, on peut faire du sport, on est avec des jeunes, donc c'est vraiment une très bonne occasion. Mais tout de même, une journée, le 7, je serai avec les chefs d'établissement des Hautes-Pyrénées et du Gers pour la journée annuelle. Voilà, ça sera aussi une bonne manière de nous retrouver avec l'enseignement catholique.
Oui, puis une bonne manière aussi de les remercier pour cette année, hein, puisque c'est voilà, on les remercie pas souvent, mais c'est l'occasion. En début d'année, on leur souhaite bon courage. Bon, en fin d'année, on peut dire que voilà, bravo pour le travail accompli avec ces centaines d'enfants accompagnés tout au long de l'année scolaire.
Vous avez tout à fait raison de le souligner, parce qu'on sait que le contexte n'est pas toujours facile, mais vraiment les chefs d'établissement des Hautes-Pyrénées et du Gers, comme de toute la France, voilà, ont vraiment bien mené leur mission dans un contexte qui est difficile, qui tient à différentes choses. Il y a la question démographique, mais il peut y avoir aussi parfois une suspicion, enfin il peut y avoir différentes choses qui peuvent jouer, et donc merci à eux de remplir cette mission, et avec la communauté éducative, être vraiment des partenaires de l'éducation des enfants et des jeunes avec les familles.
Alors, on arrive bientôt au terme de cet entretien, Monseigneur Bertrand Lacombe, mais je voudrais encore aborder deux questions. D'abord, puisqu'on parle un petit peu de l'été et des vacances, est-ce que dans votre diocèse, il y a une pastorale du tourisme qui est déployée, en particulier là pour cet été, avec peut-être ici ou là dans les paroisses des bénévoles qui se mobilisent pour accueillir les touristes, les vacanciers?
Oui, alors. Je souligne quand même deux camps aussi, parce qu'il y aura fin juillet un camp à Artigues-Longues avec les 3e lycéens, et puis nous venons à Lourdes, bien sûr, pour le pèlerinage diocésain le week-end après le 15 août. Et donc il y aura la journée diocésaine le 23 août, ce qui sera aussi un bon moment. Mais bien sûr, la pastorale du tourisme qui a été mobilisée par différents événements. Il y a eu cette initiative intéressante autour des cimetières, déjà qui s'est passée il y a quelques semaines, et qui est une manière aussi d'être présent. Il y a eu la nuit des musées aussi, et il y a quelques semaines, qui a été aussi un moment pour faire un certain nombre de propositions. Et puis la nuit des églises aussi qui arrive. Donc vraiment, on est présent là avec un certain nombre d'initiatives originales qui mêlent la dimension culturelle, la marche, la musique. Et vraiment, je remercie à la fois les délégués à la pastorale du tourisme, Madame Marcel Puyol, mais aussi tous ceux qui, dans leur paroisse, sont présents pour mettre en valeur notre magnifique patrimoine religieux gersois, et pour faire preuve d'initiative auprès d'eux. Voilà, l'âme qui est en vacances, eh bien, c'est une âme qui se rapproche de Dieu.
Alors, on aurait dû commencer par ça, mais évidemment, on ne peut pas parler du patrimoine religieux sans évoquer l'incendie à Condon il y a quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur ce qui s'est passé, ou un petit point de situation?
Oui, alors, bon, beaucoup de personnes m'ont dit leur proximité avec le Gers, avec les deux événements très éprouvant. D'abord, celui qui concerne Liana, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur Radio Présence Lourdes-Pyrénées, mais nous restons toujours accablés par ce qui a été vécu, et en redisant notre attachement à tous les partenaires de l'éducation qui n'ont pas démérité dans le Gers, que ce soit la sécurité civile, que ce soit les services de la justice, dont on sait le manque de moyens, et donc notre proximité, mais aussi l'invitation à œuvrer ensemble pour que la famille, le réseau d'amis, soit vraiment ce sanctuaire sur lequel les enfants puissent grandir, puissent s'appuyer, puissent grandir. Et puis, il y a eu cet incendie aussi du cloître de Condon, ce cloître qui est entre la cathédrale et la préfecture, l'ancien évêché de Condon. Et malheureusement, tout ce qui était dans le cloître a brûlé, notamment la médiathèque et un certain nombre d'ouvrages, même si les pompiers ont été là très vite, et finalement limiter l'incendie au cloître, donc tant du côté de la préfecture que du côté de la cathédrale, il n'y a pas eu de dommages. Donc c'est à la fois la tristesse d'avoir vu partir en fumée avec des flammes immenses, là c'était vraiment très impressionnant, ce cloître, mais aussi grâce aux pompiers, ça a pu être limité par rapport aux dommages. Et voilà, dans ces deux beaux bâtiments, chacun dans leur style, que ce soit la sous-préfecture ou que ce soit la cathédrale, eh bien, nous pouvons continuer à aller prier, nous recueillir dans la cathédrale pour l'ensemble de fidèles et puis pour les pèlerins, toujours nombreux sur nos chemins de Saint-Jacques dans le Gers.
Évidemment, voilà. Et puis c'est vrai que ce patrimoine religieux, il est accueillant et il est rafraîchissant, ce qui n'est pas une mince affaire par les temps qui courent. On va terminer, Monseigneur Lacombe, avec cette neuvaine proposée par tous les évêques de France à tous les fidèles qui veulent bien s'y joindre à propos de ce projet de loi, de cette loi sur la fin de vie qui est en troisième lecture à l'Assemblée depuis lundi. Les évêques de France nous invitent et donc, bien sûr, vous nous invitez, Monseigneur Lacombe, à prier pour que nos responsables politiques soient... clairvoyant, est-ce que c'est ça qu'on doit demander au Seigneur, la clairvoyance de nos responsables politiques?
Oui, on doit le demander au Seigneur et puis on autant que possible aussi manifester notre attachement à la vie dans les liens que l'on peut avoir aussi avec nos élus. Ce qui a marqué quand même ces derniers temps, c'est que l'écart entre les gens qui sont pour et les gens qui sont contre c'est diminué, donc il y a plus de personnes qui prennent conscience et qui se disent la vie c'est vraiment essentiel. On ne choisit pas comme ça rapidement parce qu'on sait que une idée qu'on peut avoir quand tout va bien, on est dans une autre position quand on a des soucis de santé, quand on est éprouvé par des questions difficiles. On prend conscience autrement du don de la vie. Donc prions, agissons pour que ce vote du 30 juin laisse toute sa place à la vie, laisse toute sa place aux soins palliatifs, laisse toute sa place à l'accompagnement. On n'est jamais de trop dans notre société, dans notre humanité. Alors, continuons de différentes manières à être au service de la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle, et accompagnons autant que possible ceux qui connaissent des difficultés de santé pour que nous aussi, quand il nous arrive de vivre ces moments-là, nous puissions ressentir tout le bien, à la fois des soins, mais aussi de ceux qui sont là pour nous accompagner, pour témoigner de leur amitié, de leur amour, de leur charité pendant ces moments-là.
Merci beaucoup, Monseigneur Lacombe. On a balayé un champ très divers de l'actualité du diocèse et puis une actualité un petit peu plus large. En tous les cas, merci de nous avoir accompagnés sur les ondes de Radio Présence pendant toute cette année pastorale. On aura le plaisir de vous retrouver à la rentrée. Vous aurez certainement beaucoup de choses à nous raconter après cet été à la fois sportif, mais aussi reposant et spirituel, n'est-ce pas? Et vous aurez aussi l'occasion d'être au micro de Philippe Subercase à partir du mois de septembre.
Eh bien, merci à vous, chère Anne-Rose, d'être venue régulièrement dans le Gers, d'avoir réalisé ces interviews, d'avoir passé à l'antenne un certain nombre d'événements que nous vivons. Vraiment, nous sommes heureux de partager et de vivre cette proximité avec le diocèse de Tarbes et Lourdes pour l'enseignement catholique, pour le secours catholique, pour un certain nombre de choses, et bien sûr pour Radio Présence. Un très bon été à vous, chère Anne-Rose, et à tous nos auditeurs.
Merci, Monseigneur.
Un grand merci, effectivement, Monseigneur Lacombe, l'archevêque du diocèse d'Auch, qui était au micro d'Anne-Rose Jankovic, et qu'on retrouvera, bien sûr, dès la rentrée prochaine. Tout de suite, on va rester dans le Gers, et on va découvrir une belle structure, une belle association, le Souvenir Français. On va replonger dans l'histoire.
Radio Présence à Auch, 89.6.
Dans le Gers, dernièrement, le comité Hoche-Baron du souvenir français du Gers a tenu son assemblée générale. Dans la région d'Hoche et de Baron, le comité participe à la gestion et au respect des carrés militaires locaux, comme celui de Baron qui compte environ 94 tombes. Le comité participe activement aux cérémonies patriotiques locales et nationales, comme le 11 novembre, le 8 mai, le 14 juillet, ainsi qu'aux commémorations local. Il collabore avec les collectivités, les anciens combattants et les établissements scolaires pour maintenir vivant le devoir de mémoire. Pour nous en parler, Pauline Cazier a rencontré Louis Saint-Ignan, délégué départemental, et Rose-Marie Miotti, la présidente du comité Hoche-Baron.
Louis Saint-Ignan, bonjour. Vous êtes délégué départemental du Souvenir français. Alors, pour les auditeurs de Radio Présence qui ne connaissent pas le Souvenir français, pouvez-vous expliquer les missions ?
Oui, alors bonsoir à tous vos auditeurs. Alors, le Souvenir français est une très vieille association puisqu'elle a été créée après la guerre de 1870 contre la Prusse. Le 2 septembre 1870, Napoléon III a capitulé à Sedan. Que pour autant, la guerre de 1870 n'a pas été terminée. Elle a continué sur le sol français puisque Paris a été assiégé. Les combats ont même eu lieu au bord de la Loire. Le 28 janvier 1871, il y a eu l'armistice, ce qui a déclenché la Commune de Paris, puisque les Parisiens ont refusé la paix avec, à l'époque, c'était la Prusse et ses alliés des provinces allemandes. L'unité allemande a été réalisée d'ailleurs par Bismarck le 18 janvier 1871, à Versailles, et peu avant donc la signature de l'armistice. Et le 10 mai 1871 a été signé le traité de Francfort, par lequel la France a dû céder l'Alsace et la Moselle à l'Empire allemand. Un professeur alsacien, François-Xavier Nissen, n'a pas accepté cette situation. En 1872, déjà, avait germé cette idée. Il a créé le Souvenir français, qui est une association mémorielle qui a trois objectifs. Alors, c'est une association qui est soumise à la loi de 1901, qui n'existait pas au moment de sa création, mais qui a été mise en conformité avec la nouvelle loi 1901, qui a été reconnue d'utilité publique en 1906, qui est placée sous le haut patronage du président de la République, qui a été couronnée par l'Académie française et l'Académie des sciences morales et politiques. Et donc, c'est une association qui n'a pas, qui est une continuité. Ce n'est pas comme une association d'anciens combattants qui regroupe les personnes ayant participé à un même conflit et malheureusement, elle vient de disparaître. Je prends un exemple, il n'y reste plus d'anciens combattants de la guerre de 1914-1918 puisque le dernier poilu, les Arpes, ont dit qu'il y est décédé. Que le second conflit mondial voit de moins en moins d'anciens combattants et que chaque jour on voit que les effectifs, les participants à la guerre d'Algérie, chaque jour décèdent, hein, puisque c'est la tranche d'âge des personnes nées entre 1934 et 1942. Donc il y a de plus en donc les effectifs s'amenuisent. En revanche, l'association du Souvenir français est une association mémorielle qui dure depuis plus d'un siècle et qui n'a pas de limite dans le temps puisqu'elle continuera à s'occuper donc du souvenir. Il y a essentiellement trois missions que je vais vous résumer. La première, c'est de conserver la mémoire des personnes, des hommes et des femmes qui sont morts pour la France au cours de son histoire ou qui l'ont honoré par de belles actions, notamment en entretenant leurs tombes ainsi que les monuments élevés à leur gloire, tant en France qu'à l'étranger. Donc c'est la mission première, l'entretien des tombes des morts pour la France et des monuments commémoratifs. La deuxième mission est d'animer la vie commémorative en participant et en organisant des cérémonies patriotiques nationales et des manifestations locales qui rassemblent les différentes générations autour de leur histoire. Souvenir français, la délégation générale et les six comités du GERS qui la composent, aux cérémonies tant nationales, c'est-à-dire 8 mai, 14 juillet, 11 novembre, que local, nous participons au combat de Castelnau-sur-Lauvignon, au combat du Maquis de Meillan, de l'île Jourdain, de Panjas. Nous organisons et nous participons à ces cérémonies. Et les cérémonies les plus marquantes sont celles pour le GER sont celles de Castelnau-sur-Lauvignon, du Maquis de Meillan. Et les deux cérémonies importantes organisées par le Souvenir français sont celles qui ont lieu à Lectour, au carré des Sénégalais, parce qu'il y a un carré de tirailleurs sénégalais qui sont morts de maladie après la guerre 14-18 et qui ont inhumé dans un carré militaire à Lectour. Et la cérémonie en hommage aux Harkis. Alors, la cérémonie a lieu une année à Auch, une année à Mirande, parce qu'il y avait à Mirande une communauté Harkis qui travaillait dans un hameau de forestage. Donc chaque année aussi, nous participons à la cérémonie organisée à Mirande. Et enfin, la troisième mission du Souvenir français, c'est de transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives, en leur inculquant, par la connaissance de l'histoire, l'amour de la patrie et le sens du devoir. Alors, à ce titre-là, j'interviens dans les établissements scolaires, en primaire, dans le secondaire. Et moi-même, je participe chaque année, je fais partie du jury du concours national de la résistance, auquel participent les élèves des collèges et des lycées du département du Gers. Et également, dans cette mission de transmettre la mémoire, nous finançons des voyages scolaires, soit sur des lieux de mémoire nationaux, comme les champs de bataille de Verdun, du Chemin des Dames, ou des plages de Normandie, sur les sites locaux, Maquis de Meillan, le musée de la Résistance à Auch, ou le musée très intéressant des frères da Silva à Brugnens, un petit village, ils se situent près de Florence. Donc voilà les trois missions essentielles du Souvenir français. Concernant ces ressources, parce qu'il faut des ressources pour se faire, nous avons essentiellement deux sources de revenus. D'une part, les cotisations des membres. Nous sommes à peu près un peu. Cette année, les effectifs ont remonté. Dans le département, nous sommes à peu près 490 membres. Et également, la quête nationale du Souvenir français qui a lieu chaque année aux alentours de la Toussaint. Nos quêteurs se mettent sur la voie publique ou près des cimetières pour recueillir les dons des personnes et nous leur expliquons le sens de la mission du Souvenir français.
Je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a une particularité des monuments aux morts dans le département du Gers par rapport à d'autres départements ?
Je ne sais pas qui a fait un ouvrage très intéressant sur ces monuments aux morts. Ils sont de différentes formes, de différentes conceptions et je crois même qu'il y a quelques monuments aux morts dans le département de la guerre de 1870. Mmh. Notamment, j'ai vu l'autre jour, je suis allé à Massub, où il y a de chaque côté de la route le monument aux morts érigé à la demande du Souvenir français à l'époque, pour les morts pour la France gersoise de la guerre de 1870, et de l'autre côté de la rue, il y a le monument aux morts dédié aux morts des deux guerres mondiales, de la guerre d'Algérie, d'Indochine et des opérations extérieures.
Je vais passer la parole à Rosemarie Miotti. Vous êtes présidente du comité pour Auch-Barrens, parce que monsieur de Saint-Ignan, vous disiez qu'il y a 7 comités, c'est ça ? 6. Alors dans ce comité Auch-Barrens, madame Miotti, expliquez-nous ce que vous faites.
Nous essayons de cultiver les lieux de mémoire en ce sens qu'on fait des appels aux adhérents et aujourd'hui j'ai une cinquantaine d'adhérents à jour de leur cotisation et j'ai à peu près 100 adresses. On fonctionne en faisant effectivement toutes les cérémonies. On essaye d'être présent à toutes les cérémonies avec nos porte-drapeaux. Nous avons 2 porte-drapeaux, un titulaire, un suppléant. Et ensuite, suivant la demande, parce que nous n'allons pas vraiment au-devant, suivant la demande, nous recevons des demandes pour rénover un monument aux morts, faire des voyages scolaires dans les lieux de mémoire, et c'est comme ça que nous fonctionnons. Après, effectivement aussi, on fait un petit peu, on va, comme là, j'essaye de rentrer en relation avec l'académie, l'inspecteur d'académie, pour essayer dans les collèges, les lycées, de faire des actions pour sensibiliser les jeunes. Et en fait, c'est les fonctions du Souvenir français que nous essayons de mettre en œuvre dans nos comités. Et ce que j'essaye de faire à Auch.
Vous recrutez toujours des adhérents, c'est plus compliqué les années passant?
Oui, c'est de plus en plus compliqué parce que d'abord, moi personnellement ici, dans le comité Auch-Barran, j'ai un comité vieillissant. Il ne faut pas se voiler la face à Auch, les jeunes partent. J'en ai quand même quelques-uns, hein, il ne faut pas dire, mais j'ai beaucoup de mal pour arriver à transmettre le flambeau, comme disait tout à l'heure M. Saint-Ignan, et avoir de nouveaux adhérents jeunes. Mais je ne suis pas en perte de vitesse au niveau des adhérents cotisants, donc je suis contente, parce qu'il faut se contenter de peu. Voilà.
Quand vous vous déplacez dans l'établissement scolaire, ce sont les collèges, les lycées?
Les écoles primaires,
est-ce que vous sentez que la génération actuelle est encore sensibilisée, les professeurs d'histoire sensibilisent les élèves sur la période des années 40 et même la guerre d'Algérie, ou comment ça se passe?
Je le pense parce que nous avons, je prends l'exemple de deux comités, le comité de Condon, où la secrétaire et la trésorière sont deux professeurs d'histoire du lycée Bossuet, qui sont très impliqués et qui interviennent beaucoup auprès de leurs élèves, qui sont très intéressés. Ils organisent d'ailleurs des cérémonies. L'an passé, nous avions organisé une cérémonie à Condon en l'honneur de Nori Kazoubon, qui est échappé au massacre de Castello sur l'Ovignon, qui est parti réaliser une mission à la frontière espagnole et qui s'est arrêté un soir le mauvais soir à Meillan, et qui a été tué lorsque le maquis a été pris d'assaut par le régiment de grenadiers allemand. Et donc c'est un condom qui est inhumé au cimetière de Condon, et avec les professeurs d'histoire qui sont membres du souvenir français, nous avons organisé une très belle cérémonie. Puis nous intervenons également, pour jouer à l'Hector, nous avons confié le drapeau de Rhin et Danube dont nous avons hérité, puisque l'association Rhin et Danube, qui regroupait les anciens combattants de la première armée française, a été absorbée parce qu'il n'y a plus personne, par le souvenir français, et nous sommes chargés de transmettre son héritage moral. Et nous avons récupéré le drapeau que nous avons confié à la garde de la cité scolaire Maréchal Lannes. Là aussi, le proviseur de cette cité est très 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 impliqué, et les professeurs également. Et je le vois aussi dans les établissements scolaires. Hein, je reçois des demandes de voyages pédagogiques d'écoles primaires, du département, de petites communes. Et effectivement, les enseignants sont très impliqués.
Une dernière question. Combien reste-t-il d'anciens combattants de la guerre de 39-45 dans le département?
39-45, de part, restait beaucoup. Ils doivent se coordonner sur les poignets, sur les deux mains. Hein. Et la dernière... alors, il y a eu aussi... c'est une guerre méconnue, c'est la guerre de Corée, mais qui a impliqué un bataillon français de 3500 hommes, où il y a eu 387 tués, je crois. Mais c'était sous la bannière de l'ONU. Hein. C'était la demande de l'ONU et une résolution du Conseil de sécurité qui avait demandé aux nations d'engager une action contre l'agression de la Corée du Nord contre la Corée du Sud. Donc il y a un Gersois qui a été tué pendant ce conflit et qui est inhumé à Saramon. Sinon, après en Indochine, c'était une guerre, mais avec des volontaires, c'était l'armée de métier. Mais le contingent le plus important, c'est les anciens combattants d'Algérie, parce que c'est des appelés. Les effectifs sont encore importants, mais ils diminuent chaque jour de plus en plus. Mais de la Deuxième Guerre mondiale, il ne doit pas rester beaucoup d'anciens combattants. Hein.
Voilà, nous venons d'entendre il y a quelques instants Rose-Marie Miotti, la présidente du comité Auch-Barran, ainsi que Louis Saint-Ignan, le délégué départemental. C'est dernièrement que le comité Auch-Barran du souvenir français du Gers a tenu son assemblée générale. C'est à cette occasion que Pauline Cazier a réalisé cet entretien. Pauline Cazier, que l'on remercie.
Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Diego Arrabal, Philippe Subercaz.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arrabal, fidèle au poste. Bonjour messieurs.
Bonjour Philippe Subercase, bonjour Diego Arabal.
Bonjour les deux Philippe.
Vous m'avez fait plaisir cette semaine, Philippe Noni, parce que des fois vous arrivez avec des livres qui font 800 pages, 400 pages, où il me faudrait à peu près 2 ou 3 siècles pour les lire, que vous lisez souvent dans un week-end, vous m'impressionnez. Mais là, vous m'avez fait voir un livre, et j'ai lu 2 nouvelles qui sont assez étonnantes, et celle des 4 personnes dans la voiture, ou bien celui qui maltraite quelqu'un. La chute est toujours très intéressante. C'est des petits récits qui font une page et demie. Alors là, moi, vous m'avez régalé, Philippe.
Alors, on avait interviewé, effectivement, Philippe Subercase, vous vous souvenez, déjà un auteur qui faisait de la nano-nouvelle, c'est-à-dire pas plus de 180 signes. On l'avait interviewé ici, donc, sur ce plateau. Et le recueil de nouvelles, il faut bien le dire, c'est un genre littéraire insuffisamment mis en valeur en France, alors même que l'écriture ramassée d'un texte demande une réelle maîtrise du récit. Ici, maintenant, pour rattraper cet angle mort de la littérature française, nous allons parler d'un recueil de nouvelles minutes, c'est-à-dire des textes très courts que l'on peut lire en tout lieu et en toute situation, sur un quai de gare, dans une rame de métro, assis à un café, allongé à la plage ou dans la file d'attente d'une pharmacie. Bonjour Hervé Hu.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de présence. Vous êtes l'auteur d'un savoureux recueil de nouvelles, je me suis régalé à le lire, publié aux éditions Libri Nova. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ces nouvelles, donc l'histoire minute que vous avez publiée aux éditions Libri Nova, à effectuer cet exercice de style que l'on peut lire dans la minute ou presque?
Alors, premièrement, merci beaucoup de m'accueillir et de vouloir parler de ce genre littéraire qui est effectivement assez peu répandu de nos jours. L'idée derrière ces nouvelles, c'est simplement un exercice de style, être capable de raconter une histoire en quelques mots, 200, 300 mots maximum, donc effectivement ça fait une page, 2 pages, d'amener le lecteur à rentrer dans une histoire très très vite et arriver à une chute très très vite. C'est effectivement, contrairement à ce que vous avez dit en introduction, en 800 pages on a le temps d'installer un environnement, on a le temps d'installer une histoire, en 300 mots on n'a pas le temps, donc faut aller très très vite, faut limiter le nombre de mots, faut être chirurgical dans la façon dont on écrit, et c'est un exercice qui est très très intéressant, et quand ça fait plaisir au lecteur, alors là on a tout gagné.
Alors, ça fait plaisir au lecteur, hein, on le précise, vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas un genre, la nouvelle, qui est valorisée en France, c'est pas le cas de nos voisins, hein. Mmh. On voit que les recueils de nouvelles marchent très bien en Allemagne, marchent très bien au Royaume-Uni. Ouais. Voilà, c'est vraiment, on aime beaucoup les recueils de nouvelles, alors je parle même pas des États-Unis, hein. Aux États-Unis, effectivement, c'est vraiment un genre de lecture qui est très très apprécié, c'est moins le cas en France, et c'est pour ça qu'on rattrape ça aujourd'hui avec vous, avec l'histoire minute, donc courte nouvelle aux éditions Libri Nova. Dans le processus de création qui est le vôtre, Hervé Hu, ça vous semble compliqué d'écrire une nouvelle minute, d'une part, et d'autre part, comment vous vient le thème? Et on verra, je vais lire tout à l'heure de nouvelles minutes, comment vous vient le thème des nouvelles minutes que vous écrivez?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est effectivement difficile pour un auteur de devoir se limiter à un certain nombre de mots, mais c'est un véritable plaisir parce que c'est vraiment ciseler chaque phrase, arriver à donner le maximum d'informations, le maximum de contexte en quelques mots. Et c'est très dur, mais c'est un vrai plaisir. Et les idées, elles viennent de partout, en fait. Moi, j'ai publié ce recueil avec quelques dizaines de nouvelles, mais j'en ai une bonne centaine ou 200 sur le coude. C'est simplement une information, une pensée qui vient à un moment donné, une sensation. Et ça en fait pas une histoire de 500 pages, ça en fait une petite réflexion de quelques centaines de mots. Et ben on passe quelques heures, quelques jours à l'écrire, quelques jours à le finaliser. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir le faire.
Et alors moi je trouve que ce bonheur c'est bien de le partager parce que vous voyez Philippe Subercase tout à l'heure là, le disait donc dans son propos liminaire là pour débuter cette émission. C'est vrai que quand on discute par moment avec des lecteurs ou des lectrices, ils nous disent non, nous, qu'un bouquin est trop gros, on n'a pas envie de l'acheter. Et je trouve que l'avantage de votre recueil de nouvelles, c'est qu'il réconcilie des personnes qu'on a perdu ou qu'on est en train de perdre avec la lecture, on les réconcilie effectivement avec ce récit. Je vais lire plusieurs extraits au fur et à mesure de cette interview, mais je vais lire donc une première nouvelle que vous avez écrite, c'est en noir et blanc, c'est la première que j'ai lue, et j'en profite au passage pour remercier la librairie Bleu et Or, donc à Saint-Lary-Soulan, Lucie Plessala, puisque c'est chez elle que j'ai découvert votre recueil de nouvelles, assez étonné de le trouver là. Je l'ai acheté quand j'ai vu le thème, et franchement, ça vaut vraiment le coup. Voici en noir et blanc. Il y a des scènes qui ne se conçoivent qu'en noir et blanc, comme cette vieille berline sombre qui file tranquillement sur une route nationale déserte. Le paysage ressemble à la Bretagne, on pourrait être entre Rennes et Saint-Brieuc. On ne voit pas le soleil, mais il est certainement haut dans le ciel. Il ne pleut pas encore. À bord, quatre hommes, tous d'âge mûr. Leurs costumes sombres paraissent légèrement passés de mode, passés tout court. Leur visage impassible fixe sans ciller le défilé presque régulier des peupliers oubliés là. On les croirait sortis de l'imagination de Jean-Pierre Melville, une allure de petite frappe tout juste libérée de frêne ou de la santé. On les suit sur quelques kilomètres dans un silence tout juste perturbé par le ronronnement du moteur. On ne sait pas où ils vont, d'où ils viennent. C'est sans importance. Dans une minute, on les aura oubliés. Pour l'instant, on se demande quand même qui ils sont. L'ennui, sans doute. Et puis, quand on ne s'y attend plus, un élément nouveau brise la monotonie de la scène. Par la fenêtre, entre deux arbres, un flash, une touche de couleur. Un peu plus et on l'a raté. La voiture ralentit, s'arrête et le chauffeur tourne la tête pour faire marche arrière. Il pile au niveau d'un autostoppeur, basket au pied. Une autre époque. L'équipage a repris sa progression. Le jeune homme est coincé à l'arrière entre les deux costumes sombres, son sac sur les genoux. Ses tentatives d'entamer la conversation restent vaines. Quelques minutes plus tard, pourtant, l'homme à sa droite se tourne vers lui. « Tu as un chewing-gum ?» Tout heureux, le garçon se tortille pour en sortir un paquet de sa poche, la poche de sa veste. Il le tend autour de lui, chacun se serre. La voiture pile de nouveau. Quand elle repart, le gamin et son sac ont retrouvé le bord de la route. Toujours impassible, les quatre hommes en costume, sombres, mâchonnent en regardant défiler les peupliers. Voilà, j'adore. Ce qui est très bien dans vos nouvelles, c'est la chute. Ça ne va pas être évident d'aller organiser une chute. Parce que la première donne envie de lire la seconde donne envie de lire la troisième, et puis à la fin, je me suis dit, mince, c'est déjà fini.
Ah, vous avez raison, la chute, c'est un élément important dans une histoire aussi courte, parce qu'effectivement, il faut que le lecteur soit rassasié, et effectivement, il a lu pendant une minute, il faut qu'il sente qu'il est arrivé à la fin de quelque chose et qu'il ait envie de lire la suivante. Et la chute, elle peut être triste, elle peut être drôle, elle peut faire réfléchir, peu importe. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une conclusion. Et derrière, bah, c'est au lecteur de faire sa propre imagination de ce qui va derrière.
J'ai une question à vous poser. Quand je l'ai lu, vous avez fait du stop un jour, vous avez été pris par quatre mecs qui ne vous ont pas adressé la parole, qui avaient envie de chewing-gum, et puis vous êtes resté sur le bord de la route.
Non, jamais. C'est des idées qui passent comme ça et on a envie de les écrire parce qu'on les trouve drôles, on les trouve touchantes. Voilà. Et ça donne ça.
Parce qu'elle est vraiment originale. Je vais en lire une autre, c'est en page 19. Alors celle-ci, c'est celle que j'ai fait lire ce matin aussi à Philippe Subercas. Je lui ai dit, écoute, lis cette nouvelle et regarde. Et puis je le voyais sérieux, à la fin, d'un seul coup, il a ri. Il m'a dit, ah oui, on ne s'attend pas effectivement à cette chute comme là, où on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais lire la nouvelle le plus fort, c'est en page 19 donc, de votre recueil de nouvelles, RVU, l'histoire minute, donc courte nouvelle, publiée chez Libri Nova. Il se croyait le plus fort, il se croyait le maître, celui à qui tout est dû. Pour lui, j'étais là, je devais le servir, répondre au moindre de ses désirs, peu en importait le prix. Pourtant, au début, une harmonie tranquille nous unissait, presque une symbiose. J'aimais sa fragilité, son goût immodéré pour les grands espaces. À cette époque, je devais le protéger des autres, les plus grands, les plus forts que lui. Mais il était plus intelligent qu'eux. J'aurais dû me méfier. En grandissant, il est devenu plus dur, plus exigeant. Rien n'était assez bien pour lui. Je m'épuisais à tenter l'impossible pour le satisfaire. D'esclave, je suis devenu victime.
portant les marques de ses maltraitances, cicatrices profondes. Il n'avait plus peur de personne, toisant les autres du haut de sa nomination sans partage. Puis il m'a pensé fragile, incapable de résister à ses mauvais traitements, de soigner mes blessures. Quand il en a pris conscience, il a tenté de me protéger de lui-même, mais trop tard. Sa nature était trop forte, il a continué à me faire mal, de plus en plus mal, jusqu'à se perdre lui-même. Depuis qu'il n'est plus là, je me reconstruis doucement. Je respire. Mes forêts s'étendent de nouveau, irriguées par des rivières aux eaux claires, résonnant des multiples cris de leurs habitants. Il faudra du temps, mais de nouvelles espèces viendront peu à peu remplacer celles qu'il m'a prises. Il me pensait fragile, moi, la vieille terre et mes 4 milliards d'années. J'en ai vu passer d'autres, des espèces dominantes. Pour moi, elles ne durent jamais plus d'un instant. La idem, RVU, une chute absolument ciselée. Elle vous est venue comment, cette idée-là? C'est le réchauffement climatique qui vous l'a inspirée?
Oui, c'est tout ce qu'on voit, c'est tout ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui, le réchauffement climatique, la pollution, même les guerres, hein, qui bouleversent complètement la planète. C'est juste une façon d'essayer de faire réfléchir. Je veux pas en faire des pages et des pages. Je veux pas détailler tout ça. Je veux juste faire une petite histoire qui, au final, on se dit, bah effectivement, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Voilà.
Et je trouve que ça c'est très bien parce que vous auriez pu à l'inverse faire un texte voilà qui aurait été et là franchement bon on serait pas en train d'en parler ensemble parce qu'il y aurait pas eu cette capacité de montrer les choses d'une autre façon, de les montrer sous un angle mort, c'est-à-dire à un moment donné de raconter l'histoire de la nature, c'est-à-dire qu'au départ moi j'ai pensé une femme battue.
J'ai commencé c'est un à lire. Peu l'objectif.
Voilà, j'avais bien compris. Je me suis dit, bon, ok, où est-ce qu'il veut nous emmener? C'est peut-être une femme battue. Je me suis dit, bon, voilà, il veut dénoncer les féminicides. Au départ, vous voyez, quand je lisais, j'étais presque, je me disais, bon, si c'est pour parler de ça comme ça, je me disais, c'est moins original que les précédentes. Et puis quand j'ai commencé à arriver vers la fin, que vous avez commencé à parler des arbres, des forêts qui se reconstituent, je me suis dit, oulala. Oulala, je me suis dit, garçon, tu t'es égaré, il t'a mené par le bout du nez, comme il voulait, et il y a la chute. Et franchement, brillant. Franchement, c'est...
C'est très gentil.
Moi, c'est un régal, vraiment. Je recommande aux auditeurs et aux auditrices de présence RVU, donc l'Histoire Minute, courte nouvelle, donc chez les Prix Nouva, de commander votre livre. Alors, y compris, je le répète, hein, pour les confrères de Philippe Subercase, hein, qui adore la lecture, au point, effectivement, je le vois rire en régie, au point, effectivement, que, ben voilà, c'est, on n'est pas forcément, on n'aime pas forcément lire, mais je trouve que, on attend, 10 minutes, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de monde à la pharmacie, on sort votre livre, ben d'un seul coup, on est plongé dans un univers, le vôtre, où on est emmené avec des mots simples, mais des mots qui racontent effectivement des histoires, des mots qui veulent dire quelque chose. Et franchement, c'est réellement brillant, quoi. Hein,
et on, c'est très gentil.
Voilà. Et je rappelle, donc, l'Histoire Minute, c'est plus de 40 histoires courtes à lire, hein, c'est ce qui est marqué... Donc dans la quatrième de couverture, qui m'a beaucoup amusé d'ailleurs, parce que vous dites dans la quatrième de couverture, enfin votre éditeur et vous-même, vous dites... Ce livre n'est pas fait pour rester dans une bibliothèque. Il est fait pour les tables de salon et les tables de nuit, les sacs à main et les sacs de voyage, les grands espaces et les petits coins. Il est fait pour traîner dans les endroits où vous le trouverez lorsque vous aurez 2 minutes à tuer. J'ai trouvé que c'est ça qui m'a fait acheter effectivement votre livre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est pas mal, je me suis dit, il y a une façon de présenter les choses qui peut paraître être un peu provocatrice, et qui en fait, effectivement, ne l'est pas du tout. Donc chapeau. Je vais lire une autre, si vous en êtes d'accord, RVU, une autre nouvelle, c'est Espace, c'est en page 79,
Et ça nous renvoie effectivement à un personnage qu'on a tous bien connu, car on est un soixantenaire comme moi, ou un peu plus pour vous, Diego Arabal.
Un tout petit peu.
Un tout petit peu plus. Hein.
150 de plus.
150 de plus, voilà. J'ai croisé le capitaine Kirk l'autre jour, il ne m'a pas reconnu. Depuis la mort de Spock, il n'est plus le même. Il avançait tête basse sur le trottoir d'en face, il s'est engouffré dans le bistrot du coin de la rue. J'étais inquiet, je l'ai suivi. Je me suis installé au comptoir entre deux Klingons habitués du lieu. Ils ne se parlent plus depuis des années, mais ils viennent boire leur verre toujours au même moment. Je suis sûr que chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Mais comme ce n'est pas dans leur caractère, ça peut durer 100 ans. James était assis tout seul au fond de la salle, dans la pénombre. Comme d'habitude, personne ne faisait attention à lui. Tant que l'alcool n'avait pas déridé ses neurones, mieux valait ne pas s'y frotter. Ceux qui ont essayé s'en souviennent encore. Alors chacun attendait le moment où le capitaine lèverait les yeux pour raconter des histoires d'endroits où personne n'était allé avant lui. Quand il était mis à la retraite de Starfleet, il a eu l'idée de rendre accessible le transport par téléportation jusque-là réservé à l'armée. Malheureusement, bien qu'il ait embauché le meilleur spécialiste, son entreprise n'a jamais décollé. Le monde civil n'était pas prêt à confier son intégrité physique à deux vieux bonshommes, plus ou moins gâteux et surtout amateurs de whisky. J'allais m'approcher de lui quand la porte s'est ouverte, laissant entrer une vieille dame très digne. S'est dirigé directement vers lui. Il a levé les yeux et son visage s'est éclairé. C'est alors que j'ai reconnu Uhura. Il n'y a qu'elle pour lui redonner vie. Je pense même qu'il n'y a jamais eu qu'elle. Voilà, très belle chute, là aussi, qui nous renvoie effectivement sur Spock et le capitaine James Kirk. Hein, que
Starfleet.
Starfleet, voilà, hein, que tout le monde a connu. Et c'est surprenant, vous voyez, dans votre recueil de nouvelles, parce que vous allez chercher des personnages auxquels on ne s'attend pas. Il y a les quatre premiers personnages au départ dans la voiture. On ne sait pas qui c'est. J'imaginais un peu genre les tontons flingueurs ou d'autres personnes.
Exactement.
Voilà, et je me disais, tiens, ça fait plutôt tonton flingueur. Je me disais, j'imagine bien Lino Ventura, Francis Blanche, j'ai oublié le. Lino Ventura, Francis Blanche.
Le Pierre-Frère Blier.
Voilà, Bernard Blier et le dernier acteur. Je les imagine bien en voiture avec leur costume et comme on le voit donc, dans cette scène. Sans les citer, bon, c'est eux ou c'est pas eux, mais là, d'un seul coup, voilà, vous nous envoyez dans cet univers et puis il y a cette chute. Toujours inattendu, d'histoire minute. Et on va parler de la couverture de votre livre. Parce que j'aime beaucoup la couverture de votre livre. Elle prend des pages de votre recueil de nouvelles. Il y a une montre de Mark Kelton et il y a un stylo. Qui c'est qui a décidé de cette couverture? Parce qu'elle représente bien, je trouve, les courtes nouvelles et l'histoire minute. C'est vous, c'est votre éditeur, vous avez travaillé ensemble dessus?
Non, c'est ma femme et moi, pour tout dire.
Ah.
Quand on cherchait une façon de représenter ce qu'il y avait dans ce livre, on a mis des choses sur une table qui représentaient ce qu'était ce recueil. Donc, effectivement, quelques pages imprimées du recueil, une montre, un stylo, ça représentait bien l'idée qu'il y avait derrière.
Vous disiez, Hervé, à l'instant, donc avec votre épouse, c'est vous qui aviez donc composé la couverture en mettant sur une table des éléments qui représentent la page de garde. Et c'est vrai que je vous disais que la première de couverture d'un roman, c'était comme le CV et comme la quatrième de couverture donc ressemble à un entretien de recrutement. C'est ça qui m'a fait prendre effectivement ce livre en me disant, tiens, qu'est-ce que c'est? Et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Et une des premières choses que j'ai faites, c'est de regarder, comme il y a l'araignée, de savoir effectivement si on trouvait aussi l'araignée donc à l'intérieur. Et j'ai commencé à le lire dans la librairie. J'ai dit, allez, hop, on envoie. J'ai dit, ça, c'est vraiment très bien. RVU, l'histoire minute, courte nouvelle, chez LibriNova. Vous effectuez des dédicaces actuellement pour porter un peu ce recueil, parce que bon, il est sorti
il y a plusieurs années.
Vous continuez encore à le porter parce que vous avez écrit d'autres... Je suis en train de chercher...
J'ai écrit des romans, pour le coup, effectivement, voilà. Un petit peu plus long que ces nouvelles-là. Non, c'est vrai que ces nouvelles, elles ont eu du succès en 2020. Je les ai un peu laissées tomber. J'ai quelques dizaines de nouvelles et dans l'idée de créer un volume 2. Donc maintenant, la question va être de choisir celles qui feront partie du volume 2 pour essayer d'essayer d'attirer les lecteurs comme pour la première fois.
Ben, quand vous allez sortir le deuxième opus, vous penserez à nous à présence.
Hein, avec plaisir.
Vous nous envoyez un exemplaire et puis on reviendra vers vous. Parce que là, franchement, c'est un vrai régal. Et surtout, je le dis souvent, on essaye à... Autant que faire se peut à présence, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les livres sont malheureusement de plus en plus chers. Et que, eu égard à la crise économique que l'on traverse, eh bien, comme disait ma fille, là, qui travaille dans une librairie, une grande librairie toulousaine, la Ombre Blanche, elle me disait, on n'a pas besoin des livres pour vivre. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de montrer qu'il y a des livres qui sont pas chers, que l'on peut lire, qui procure énormément de plaisir, parce que ben, lire, c'est quand même vivre. Et je trouve que l'Histoire Minute que vous publiez, Courte Nouvelle, RVU, chez Librinova, c'est un parfait exemple de ce qu'on aime présenter, même si c'est sorti il y a plusieurs années, c'est pas grave, sur un jour, un livre, un auteur, donc sur Radio Présence, à Lourdes. Vous avez un projet littéraire, là, pour les prochaines semaines ou les prochains mois en cours ?
Oui, je vais publier deux romans, disons un roman et un court roman, donc entre la nouvelle et le roman, toujours chez Librinova, je pense à la rentrée. Un roman un peu plus classique et un roman policier décalé. Voilà.
Ça parlera de quoi, les thèmes ? Si c'est pas indiscret de vous demander ?
Oui, on parlait tout à l'heure des soixantenaires, bah le roman c'est c'est une personne qui se retrouve à la retraite et qui est obligée de construire sa vie, de revenir un peu sur son histoire, de se confronter à la peur du vide, sur un mode un peu humoristique, sarcastique. Ça c'est le roman, et le roman policier un peu décalé, je laisse la surprise.
Bon, d'accord, ok. Ben écoutez, vous reviendrez vers nous dès que vous aurez tous ces éléments. La RVU, l'Histoire Minute, Courte Nouvelle, donc chez Librinova, vraiment, on le recommande aux auditeurs et aux auditrices parce que c'est un excellent, mais vraiment un savoureux, je dirais plutôt, si on pourrait le terme de savoureux, un savoureux recueil de nouvelles. Et comme on ne parle pas souvent des recueils de nouvelles, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire de cette édition, on se rattrape aussi, effectivement, en montrant que la France, ce n'est pas que des romans. C'est aussi des auteurs qui sont très très bons sur les recueils de nouvelles. Voilà ce que l'on pouvait dire, Philippe Subercase, pour cette semaine. Et puis...
On se retrouve la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine
Mais
prochaine.
Non, on va pas se retrouver la semaine prochaine. On va se retrouver, je pense, en septembre maintenant. Vous êtes vraiment des
stacanovistes.
Ah ouais. c'est incroyable. Vous voulez pas prendre les vacances. D'habitude, on est toujours, on est un peu excité. C'est la cloche, c'est la fin, c'est un peu, on va respirer. Alors, je sais que vous allez quand même passer cet été à lire. Et puis à revenir en septembre avec des nouveaux livres, des nouvelles chroniques. Et puis, on va essayer pour la saison prochaine, si vous êtes d'accord, messieurs, d'aller nous balader un peu. Pourquoi pas aller faire de temps en temps des émissions dans des librairies, dans des salons.
On aura le salon du livre,
bien sûr, en octobre.
Pyrénéen de Bannière du Bigorre, du Bigorre tous les trois.
Voilà, et puis vous êtes bien sûr intéressable sur les salons, mais également sur les dates. Hein, vous les connaissez par cœur.
Vous avez remarqué que je me trompe jamais. C'est la semaine dernière. Il y a 15 jours, pardon. Je me suis quand même trompé, effectivement, deux ou trois fois. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ce que disait RVU à l'instant. Là, hein. Il va faire un roman, effectivement, sur les soixantenaires. Il va falloir que je le lise parce que je vais peut-être me reconnaître dans les problèmes de mémoire.
Et pour cet été, vous savez ce que j'ai fait, monsieur Noni ? Je me suis réécouté avec grand plaisir. Une chronique qu'on avait fait sur l'Atlas des îles oubliées. Alors là, pour se mettre en vacances, il n'y a rien de mieux.
Ah oui, exact.
Oui, je me souviens. Ouais.
C'était un livre que j'avais acheté sur le musée et la bibliothèque que l'on trouve sur le lac de Vassivière, en Haute-Vienne, où j'avais été en vacances et en marchant, oui. J'avais acheté le livre, donc j'avais rajouté du poids dans mon sac à dos. Donc parce que la dame m'avait dit non, mais vous vous mettez dans la voiture. Ben j'avais dit non, je suis à pied. Ah bon? Ben j'ai dit oui, j'ai dit je traverse et j'ai dit voilà, j'ai le principe d'être à pied, c'est qu'on réinvente la lenteur. Mais bon, c'est pas trop dans l'époque, mais quand on le fait, c'est vrai que c'est passionnant. Et j'avais trouvé ce livre qui correspondait tout à fait à ce que je faisais, à ces îles oubliées.
Voilà.
On avait fait une super émission là-dessus, ouais, me rappelle.
Voilà. Ce qui est bien avec vous, Philippe, c'est quand vous lancez sur un sujet, vous faites deux heures.
Intéressable.
Vous imaginez.
Avec timide.
Moi, ce qui me fait peur, c'est le prof qui vous avait dit voilà le sujet, vous avez quatre heures. Mais vous avez sûrement répondu quatre heures, c'est tout.
C'est pas faux.
Allez, je vous souhaite de très bonnes vacances.
Merci
et puis, au nom de Radio Présence, bien sûr, je vous remercie encore pour votre fidélité, puisqu'on attaquera la 13e ou la
14e. La
14e saison ensemble.
14e saison ensemble.
Et oui, effectivement.
Ça nous rajeunit pas.
Heureusement qu'on voit pas les photos de la première des saisons. On se ferait peur sinon.
Voilà. Exactement. Le avant, après. Allez, bonnes
merci
vacances.
Beaucoup, merci. Vacances.
Merci
à vous aussi. Et à la rentrée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni. Philippe. Radio Présence sur le Causse. 106.5.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
L'Eucharistie, l'antidote aux tensions qui minent le monde, le pape l'a assuré aux fidèles et pèlerins venus écouter sa catéchèse en ce